Bon, bonsoir à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Je suis Philippe Soile, philosophe. Voilà, si j'ai bien compris, le thème de ce soir, c'est liberté, égalité, fraternité. Je commencerai par rappeler un proverbe bien connu qui est le suivant: qui trop embrasse, mal étreint. Qui trop embrasse, mal étreint. Naïvement, c'est une très belle devise, la devise républicaine, qui n'y souscrirait. Simplement, l'embarras, si nous regardons de plus près en tant que philosophe, c'est qu'il est difficile, sinon impossible, de tenir ensemble les trois instances que je viens de nommer. Je rappellerai, pour entrer dans la question, une histoire qui est racontée par Hérodote. Hérodote, premier grand historien grec, il met en scène la rencontre entre deux Spartiates et un Perse, et le Perse s'étonne que les Spartiates ne se soumettent pas au grand roi, comme l'appellent les Perses et comme l'appellent les Grecs, le roi de Perse. Et le Perse de leur dire: mais vous savez, mon maître est un maître bon, si vous vous soumettiez à lui, il vous couvrirait d'or. Simplement, les Spartiates lui font comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que l'or, que ce qui s'achète et qui rend les hommes vénaux. Ce quelque chose s'appelle la liberté. Deuxième exemple que je prendrai encore dans Hérodote, c'est lorsque ont lieu les Jeux Olympiques. Un Perse qui ne connaît pas les Jeux Olympiques demande encore à des Grecs: mais qu'est-ce que c'est ces Jeux? Alors il est très intéressé, on lui donne une description des Jeux, et puis à la fin il demande: alors le vainqueur, que reçoit-il? La réponse est une petite couronne de, en fait, deux brins d'olivier sur le front et sur la tête. Il s'étonne, il dit: mais chez nous ça ne se passerait pas comme ça, le vainqueur serait couvert d'or, etc. Et la leçon, chaque fois, chez Hérodote, est la même, c'est: nous vous parlons de quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous n'avez pas expérimenté, qui s'appelle la liberté. Vous voyez donc mon inquiétude, je pense que vous l'avez comprise, c'est qu'à une époque où tout s'achète, où tout se vend, où l'homme peut devenir vénal, eh bien, nous perdons l'amour de la liberté, puisque nous préférons à la liberté être couvert d'or, être acheté, être vendu sur un marché universel. Voilà donc pour commencer la question, l'interrogation. Nous avons donc, je l'ai dit tout à l'heure, une difficulté qui est celle qui consisterait à tenir ensemble les trois. Je vais essayer d'examiner la question. Il me semble, pour être un peu pessimiste au sens courant du terme, que nous sommes en danger de perdre les trois. Nous n'avons jamais eu vraiment les trois ensemble et nous risquons finalement de perdre les trois. Regardons l'une après l'autre les trois notions. La liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est? C'est une des notions les plus difficiles, les plus riches, les plus ambiguës aussi. Rappelez-vous le mot de Madame de Staël: liberté, que de crimes on commet en ton nom. Donc nous savons qu'il suffit d'arborer le nom de liberté et le danger, c'est qu'à partir de là, à la limite, n'importe quoi pourrait être justifié, croit-on. Donc aujourd'hui, la liberté est souvent réduite simplement à ce qui s'appelle libre arbitre, c'est-à-dire ce qui s'appelle aussi liberté de choix. Nous rentrons dans un supermarché, nous avons l'embarras du choix entre différents produits, et peut-être que ce geste anodin, puisqu'il est répété régulièrement, finit par nous tromper sur ce qu'est la liberté véritable. Parce que c'est une liberté sans effort, sans exigence, il n'y a plus de notion de justice, d'injustice, de bien ou de mal. Il suffit simplement de choisir, et il nous est laissé, semble-t-il, cette liberté de choix. Vous noterez aujourd'hui, d'ailleurs, que l'inquiétude ne peut que grandir, parce que, à l'époque de l'intelligence dite artificielle, ou de la prétendue intelligence artificielle, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque d'un conditionnement extrêmement subtil de nos comportements, peut-être que cette liberté de choix elle-même est illusoire. Je n'en déciderai pas ici, je n'en sais rien. C'est une question que je pose, en tout cas. Nous pouvons nous demander s'il n'y a pas, peu à peu, un effacement de la liberté, y compris la plus pauvre, parce que les philosophes sont d'accord là-dessus. C'est la plus pauvre liberté, le plus bas degré de la liberté, comme l'appelle Descartes, mais c'est quand même bien de la liberté. Liberté de choix, de choisir entre plusieurs possibilités. Donc le danger ici, c'est que nous perdions jusqu'à cette liberté de choix. Pour passer des choses plus grandes et plus importantes, certains historiens, certains philosophes ou politologues aussi ont montré ces dernières années un appauvrissement ou une perte progressive de certaines libertés fondamentales. Alors, comme le vice s'avance toujours sous le manteau de la vertu, ces pertes de liberté sont maquillées sous les apparences de la sécurité, par exemple. Mais vous voyez bien, si je prends la dualité liberté-sécurité, vous voyez bien, je reviens à mon point de départ, qui trop embrasse mal étreint, et vous n'aurez pas à la fois la sécurité et la liberté. Donc, simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir choisir. Est-ce que la liberté est vraiment importante, essentielle, décisive? Mais si nous répondons par l'affirmative, ça veut dire qu'il y aura un prix à payer. Et que si nous voulons vraiment conserver la liberté et les libertés fondamentales, eh bien, il y aura des choses auxquelles il faudra renoncer d'un autre côté. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Vous voyez aussi, vous avez entendu parler de celui qu'on a pu nommer Big Brother dans le roman 1984. Le danger encore avec la surveillance constante aujourd'hui dont nous sommes l'objet, c'est le danger d'une apparente liberté de circulation, de croyance, d'opinion, qui est de plus en plus mise en danger par le fait que tout est fait pour finalement nous enlever cette liberté. En tant que professeur, je peux vous avouer aussi une autre inquiétude. Désolé de vous paraître un peu pessimiste, mais ce n'est pas par pessimisme, c'est par clairvoyance, j'espère. Un danger aussi tient à l'école, parce que si l'école laisse sortir de son sein des analphabètes, des gens sans instruction qui n'ont pas lu les textes classiques, que sera leur liberté? Le rôle de l'école, c'était de rendre libre le citoyen, de lui permettre de penser, de discerner, de distinguer le vrai du faux, etc. Si l'école ne joue plus ce rôle, alors la liberté, c'est la liberté qui est en péril. Je passe au deuxième point, l'égalité. J'en suis désolé, mais je ne suis pas l'auteur du monde. La vérité factuelle, c'est que les hommes sont inégaux par nature. Les uns sont toujours malades, les autres jamais malades. L'un est surdoué pour les mathématiques, l'autre, n'en parlons pas. Vous voyez bien la variété de talents, d'aptitudes, etc. Vous voyez bien, donc pour la santé, pour le corps, pour les aptitudes intellectuelles, artistiques, etc. Vous voyez bien la plus grande dissemblance, la plus grande donc inégalité. C'est connu, Homère en parle déjà. Vous voyez bien que donc, dans la distribution des attributs, pour parler comme ça, chacun a reçu quelque chose et nous avons tous reçu des choses extrêmement variées. Donc l'étonnant ici, enfin l'étonnant, c'est pas, donc, enfin, on pourrait s'étonner que les hommes soient aussi inégaux par nature, mais l'étonnant c'est qu'en dépit de cette inégalité de par la nature, nous ayons eu l'intelligence, le courage d'affirmer l'égalité des hommes. Mais il faut comprendre ce que veut dire cette égalité. Ce n'est pas une égalité eu égard à la santé. J'insiste, une égalité eu égard aux capacités du corps, de ce que vous voudrez. Vous voyez bien que de ce côté-là, nous sommes inégaux, c'est-à-dire dissemblables. Il faudrait aussi distinguer l'égalité et l'inégalité d'un côté, la ressemblance et la dissemblance d'autre part. Ce sont des notions importantes dans la pensée grecque, depuis Platon jusqu'à la pensée moderne. Donc, le courage des modernes consiste à dire, certes, les humains sont inégaux par nature, mais cependant, nous devons leur reconnaître une égalité. Quelle égalité? Mais une égalité qui s'appellera formelle, c'est-à-dire une égalité eu égard à la dignité, à l'essence. Et cela, c'est capital, c'est infiniment précieux. Ça veut dire qu'un être estropié a la même dignité qu'une personne en parfaite possession de ses moyens physiques, intellectuels, etc. C'est une merveille, cela. Mais nous voyons bien aussi le danger que court cette notion-là. Je voudrais maintenant mettre en relation la liberté comme libre arbitre avec l'égalité. Là aussi, de nombreux philosophes ont souligné le fait que plus il y aura de liberté comme libre arbitre, moins il y aura d'égalité. Historiquement, la société la plus parfaitement égalitaire qui a existé, vous la connaissez peut-être, puisque en plus les révolutionnaires en France lui ont emprunté son nom, c'est Sparte. Ce n'est pas par hasard que j'ai parlé d'un Spartiate tout à l'heure. Les Spartiates donc, étaient à égalité, il y a eu égalité dans le partage des terres, égalité dans le statut social, statut politique des citoyens, et tout était fait pour qu'il n'y ait pas l'un qui soit plus riche que l'autre, qui l'emporte sur l'autre par quelques attributs. Le prix à payer était immense, c'est que la richesse était interdite, l'enrichissement personnel était interdit. Pourquoi pas? Je ne tranche pas la question, mais simplement pour que je veux faire voir le problème. Vous vous rappelez aussi que les bijoux étaient interdits, les parfums étaient interdits, tout le luxe était interdit. Si vous voulez en voir une trace philosophique, vous lisez le livre 2 de la République de Platon. Platon dresse le portrait, le tableau d'une cité parfaite. C'est Sparte, en vérité. Certainement, il y a égalité. C'est-à-dire, en fait, chacun se contente du nécessaire, ils vivent bien, ils sont heureux. Et Platon, d'insister, c'est une société heureuse. Vous voyez bien le contraire dans quoi nous vivons. Si nous vivons dans une société de consommation, consommation, ça veut dire destruction, sauf erreur. Enfin, il y a un autre sens que je laisse de côté ici. Ça veut dire que cette société ne peut fonctionner que si elle nous rend envieux perpétuellement et jaloux perpétuellement les uns à l'égard des autres. L'envie, c'est un vice. Chez les stoïciens, il y a deux grands vices qui agitent les humains, qui les tourmentent, l'envie et la jalousie. L'envie fait que nous sommes envieux en voyant passer quelqu'un avec une plus belle voiture que nous, quelqu'un qui a une plus belle maison que la nôtre. Et jaloux, c'est que quand nous possédons quelques biens, nous ne voudrions surtout pas que les autres puissent aussi en profiter. Donc voilà deux grands vices qui sont non pas seulement présents, parce qu'ils sont présents dans la nature humaine, mais qui sont paradoxalement exacerbés. Une société de consommation dans laquelle vous enlèveriez l'envie et la jalousie, elle s'effondre. Aller dans un monastère, l'envie et la jalousie persistent, mais en tout cas, il n'y a plus cette envie, cette jalousie telle que nous la voyons tous les jours. Donc vous voyez bien ici que si vous laissez libre cours à la liberté comme libre arbitre, comme chance donnée à chacun de déployer ses capacités, le prix à payer, il est certain, nous l'avons tous les jours sous les yeux, c'est une grande inégalité. Et là aussi, les auteurs les plus classiques l'ont compris, vous aurez de plus en plus un petit nombre de riches de plus en plus riches et un nombre de plus en plus grand de pauvres, voire de très pauvres. Donc, vous voyez bien ici, comme j'ai dit, qui trop embrasse mal étreint, oui, à la liberté, mais la question que je n'ai pas résolue, c'est quelle liberté? Et ensuite, le danger, c'est qu'une liberté mal comprise, excitée par l'envie et la jalousie, vous donne les plus grandes inégalités dans la plus grande méchanceté ou adversité. J'en viens à un autre problème qui nous touche, parce qu'il y a des élections en France, mais il y a régulièrement des élections dans différents pays du monde. Regardons ce qu'est un citoyen chez les Grecs. Regardons Athènes un instant. Aujourd'hui, tel homme est magistrat, mais hier, il était un simple citoyen. Et quand il aura rempli sa mission comme magistrat, maire d'une ville, etc., il rentrera, comme tout le monde, dans le rang. Ça veut dire que c'est capital, parce que ça vous fait voir la différence avec nos sociétés. Un citoyen athénien est tour à tour en position de commander, de décider, et en position d'obéir à quelqu'un qui décide pour lui. De la guerre, de la paix, des finances, de la réforme de l'hôpital, de l'école, etc. Vous voyez bien que de ce point de vue-là, règne une immense inégalité, à laquelle nul ne songe, semble-t-il, c'est l'inégalité politique. Qui parmi nous va régulièrement à l'Assemblée? Qui parmi nous a voix au chapitre délibératif dans son village, dans sa commune, à l'Assemblée? Un père de famille athénien va en moyenne une fois par semaine à l'Assemblée. Les questions qui occupent la communauté, qui travaillent la communauté, sont des questions qui sont délibérées ensemble, qui sont mises en délibération ensemble. Il y a ce qui s'appelle l'iségoria, égalité du droit à la parole. Là, ça veut dire quelque chose d'égalité politique. Je ne fais pas le procès de notre État, surtout pas. Mais en tout cas, je veux simplement vous faire voir par là que nous avons mis au jour aussi dans l'État moderne une inégalité capitale, en vérité. C'est l'inégalité du petit nombre de ceux qui décident et qui risque même, je vais aller plus loin, de s'arranger pour pouvoir, quels que soient les partis politiques, confisquer le pouvoir et être toujours du petit nombre de ceux qui sont dans le commandement et la décision. Donc l'égalité politique me semble bien en difficulté aussi. Troisième point, la fraternité. La fraternité, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Là encore, bel idéal. Je n'ai rien à redire. C'est magnifique, liberté, égalité, fraternité. Encore faudra-t-il les hiérarchiser, je terminerai par là. Mais vous vous rappelez ce mot de Blaise Pascal? Si nous savions ce qui se dit de nous en notre absence, il n'y aurait pas deux amis sur la terre. Donc, bien sûr, parlons de la fraternité. Les pasteurs en parlent, les prêtres en parlent, les êtres humains, hommes et femmes, essaient d'en vivre. Mais notre expérience quotidienne, c'est qu'elle est mise en difficulté, pour le moins. Aristote a écrit des grands livres, des magnifiques choses sur l'amitié. On lui prête ses derniers, comme dernière parole sur son île mort. Il est entouré de ses amis, Mes amis, il n'y a pas d'amis. Liberté, égalité, fraternité. J'ai assez tôt été surpris qu'il n'y ait pas liberté, égalité, amitié. Parce que c'est une grande notion, l'amitié politique, chez Aristote. La filia politique. L'amitié politique, ça veut dire que je peux être en présence ou rencontrer un concitoyen dont je ne connais rien, c'est la première fois que je le vois, mais simplement le fait qu'il soit concitoyen fait qu'il y a une bienveillance. Une bienveillance donc qui est réciproque, puisque l'amitié est... Enfin, un des points essentiels de l'amitié, c'est la bienveillance réciproque. L'autre point, c'est le fait de pas seulement bien, être bienveillant, mais le fait d'agir pour le bien d'autrui. Donc il me semble qu'on aurait pu parler davantage d'amitié, pourquoi pas d'amitié politique. C'est une notion capitale. Mais vous voyez bien à quel point nous en sommes loin de l'amitié politique. Quand tout est fait pour nous diviser, pour... Alors là aussi, une question que nous pouvons nous poser, et peut-être aussi nous, chrétiens, c'est en latin « cui bono ». En français, à qui profite le crime ? Qui a intérêt à nous diviser ? On voit bien au niveau international, je ne mettrai pas les pieds dans le plat des différents conflits, mais toute personne qui a un peu réfléchi voit bien qu'il y a quand même des gens qui ont intérêt à ce que telle et telle tribu, en Afrique par exemple, s'entretue, parce que comme ça nous arrivons, enfin certaines puissances arrivent et font main basse sur les diamants, les terres rares, etc. Donc la fraternité, certainement que c'est une grande chose, mais le fait... assez fréquent, c'est quand même bien, plutôt la haine, l'inimitié, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'envie, la jalousie, etc. Alors, je ne conclurai pas de manière pessimiste, je conclurai en montrant que c'est donc un effort, en fait. Parce que sinon, nous pouvons nous faire plaisir avec des grands mots, liberté, égalité, fraternité, c'est écrit à l'entrée des lycées, des collèges, à l'entrée des mairies, mais si chacun ne fait pas au moins un petit effort, cela ne veut rien dire. Alors, effort de quel ordre ? Effort, je dirais d'abord d'instruction. Effort pour se demander que signifie le mot liberté ? Qu'est-ce qu'une liberté véritable ? La liberté n'a jamais été réductible au libre-arbitre. Je ferai référence à un ancien, Aristote de nouveau. Aristote dit qu'un des vices fondamentaux d'une démocratie, il ne connaît pas notre démocratie, mais il connaît la démocratie athénienne, la démocratie directe dont je viens de parler, c'est que dans une démocratie, tout le monde est persuadé qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut. Et il dit non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est obéir à la loi, à une condition évidemment que ce soit une vraie loi et qu'elle soit juste. Donc il n'y a pas de liberté sans loi. Vous vous rappelez peut-être, certains l'ont étudié, c'est la formule célèbre de Rousseau. Il n'y a pas de liberté sans loi, ni là où quelqu'un est au-dessus des lois. Et nous voyons des individus être sans loi au-dessus des lois. Donc comment tenir ensemble les trois ? Eh bien d'abord pas en les mettant au même rang. Et donc là, il y a une sorte de choix de civilisation à faire. Si vous voulez la liberté, si vous voulez la mettre au sommet, il faut comprendre que l'égalité doit être subordonnée à la liberté. Ou alors, vous voudrez l'égalité, mais à ce moment-là, vous paierez en liberté. Il faut bien être conscient des enjeux. Mais je voudrais insister donc sur cette hiérarchie. Je laisse à chacun d'abord le temps d'y penser. Mais je voudrais insister aussi donc sur ce que j'appelais cet effort. Effort de chacun, effort peut-être aussi au niveau d'une communauté, d'une société, pour se rendre digne de la liberté, pour se rendre digne de l'égalité et pour un minimum de fraternité. Si vous me passez un exemple personnel, j'habite dans un village des Pyrénées et j'observe qu'il y a une solidarité et une entraide que je n'ai pas toujours trouvée. J'ai vécu à Paris longtemps, je me rappelle que nul ne disait même bonjour aux voisins dans la cage d'escalier, etc. C'est une toute autre atmosphère ailleurs. Voilà. Donc, la conclusion, puisque je vois que l'heure est écoulée, je pense, c'est que la liberté est fragile, infiniment fragile. C'est un trésor, mais fragile. Et si nous ne sommes pas vigilants, elle peut très vite être perdue. L'expérience récente de différents peuples nous l'a montré. L'égalité, c'est une exigence. Elle ne peut être qu'une égalité formelle, qu'une égalité quant à la dignité, quant à l'essence, quant aux droits, aux lois, etc. Et là encore, il faut éveiller. Ce n'est jamais gagné non plus, et très vite elle peut être perdue au profit d'une oligarchie qui s'appellera en grec ploutocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux plus riches. Je ne dis pas ça par démagogie, mais le fait est là, vous le savez bien. Est-il sain, S-A-I-N, qu'une poignée d'hypermilliardaires soit plus riche que l'immense majorité des mortels sur cette terre ? Je pense que nous serons assez facilement d'accord là-dessus. Voilà. Le dernier point, donc, c'est la fraternité. Je dirais que la fraternité, pour qu'elle ne reste pas un slogan, il faut qu'elle passe par chacun et en première personne. En fait, c'est comme le mystère du mal. Si je me persuade que c'est les autres qui sont méchants, c'est probablement moi le méchant. Si je me persuade que les autres ne sont pas si amicaux que je le voudrais, c'est peut-être que moi, je ne suis pas si amical qu'il le faudrait. Et donc, c'est en première personne. Vous vous rappelez, c'est le psaume 50, David, « Devant toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » C'est la même chose ici. Est-ce que j'ai fait l'effort qu'il fallait pour être fraternel avec autrui, pour être amical avec autrui, quel qu'il soit? Je terminerai par une dernière question que je ne réglerai absolument pas. Est-il possible qu'il y ait une fraternité sans père? Je vous remercie.